Je voudrais vous inviter à écouter la lecture de quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Parabole du cep et des sarments. Plutôt quelques versets qui suivent cette parabole. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je lis les versets 18 à 21. Parole de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Suite à cette lecture, je lis quelques versets dans le livre des Actes, au chapitre 5. Je lis les versets 27 à 29, tout d'abord. Il s'agit des apôtres après la Pentecôte. Après que ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal des Juifs, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je lis à la fin du chapitre les deux derniers versets, versets 41 et 42, pardon, 40 à 42. Gamaliel dit, voilà, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu, relâchons-les. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, puis ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Encore quelques versets dans la première lettre, pardon, dans la deuxième lettre à Timothée. C'est le passage que nous avons lu jeudi matin à la réunion de prière à la clinique. Donc je lis 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 4. 2 Timothée 2, verset 4 à 7. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et j'aurais dû lire le verset 3 au début de ce passage. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Plusieurs sont tentés de croire qu'avec la venue de Jésus, c'en est fini de tous les problèmes et de tous les tracas. Et certains sont tentés de croire que si avec la venue de Jésus, il reste encore quelques problèmes et quelques tracas, avec la venue du Saint-Esprit, c'est terminé. Est-ce que la Bible laisse entendre quelque chose comme cela? Pas vraiment. Donc il y a trois points dans mon message, classiquement, et mon premier point, je l'ai appelé du fruit et des épreuves. Voilà, le chapitre 15 de l'évangile de Jean, juste avant le passage que nous avons entendu, nous rapporte cette parabole que Jésus a dite, appelée la parabole du cep et des sarments. Magnifique parabole, bien sûr. Est-ce qu'il est question du Saint-Esprit dans cette parabole? Il n'est pas mentionné, mais quand même, il est évident qu'il en est question. Quand Jésus dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, C'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits. C'est exactement le ministère du Saint-Esprit qui prend ce qui est à Jésus, qui le met dans le chrétien. On pourrait dire comment ce qui est en Jésus peut venir dans le chrétien, par quelle force? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit. Voilà. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, et notamment l'amour. Romains 5, 5, l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, cette greffe par laquelle le chrétien est uni à Jésus-Christ, pour que la vie de Jésus-Christ s'écoule en lui, eh bien, cette greffe, c'est le lieu par lequel le Saint-Esprit accomplit son ministère unique et magnifique. Voilà. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Cette parole est magnifique et on devrait bien se la rappeler tous les jours. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui le rend possible. Question. Est-ce que l'objectif principal, c'est que nous soyons plus heureux? Eh bien, pas vraiment. L'objectif principal, c'est que Dieu soit glorifié. Alors, ce n'est pas incompatible, hein? Mais quand même, l'objectif principal, c'est que Dieu soit glorifié. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de la joie à appartenir au Seigneur et à porter du fruit pour lui? Certes, oui. Bien sûr que oui. Mais le but n'est pas que nous soyons plus heureux, comme on l'entend généralement. Jésus n'est pas venu sur la terre pour être plus heureux. Certes, il a dit « ma joie est parfaite », mais la souffrance a marqué son parcours sur la terre. On pourrait dire du début jusqu'à la fin. Et juste après la parabole du cep et des sarments, Jésus laisse entendre qu'il en sera de même pour nous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc c'est à la fois une promesse et un avertissement par ces paroles que Jésus nous fait entendre. Et c'est pourquoi j'ai appelé mon premier point « des fruits et des épreuves ». Voilà. Pas que des épreuves, aussi du fruit. Mais pas que du fruit, aussi des épreuves. Après son baptême, Jésus a vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe, avec ces paroles magnifiques de son Père, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis tout mon plaisir, celui qui fait tout mon plaisir. » Mais juste après, par le même esprit, Jésus est conduit au désert, pour être éprouvé. Et donc ça paraît paradoxal, mais il est important que nous comprenions cela. Et à la Pentecôte, quand l'Esprit vient sur les disciples, aussitôt on se moque d'eux. On se moque d'eux. Ça veut dire on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qu'ils vivent. On ne comprend pas pourquoi ils se comportent comme cela. Et donc si on ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a une solitude qui est lié à la vocation du chrétien dans ce monde. Ça a été rappelé tout à l'heure, mais cette solitude, elle n'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Évidemment, quand on est dans sa maison, ça peut aller, mais déjà quand on est au supermarché, et puis quand on est dans la cour d'une école, et puis quand on est au travail, dans une équipe de travail, avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a une solitude qui nous porte d'ailleurs à rejoindre nos frères et nos sœurs. Au temple ou dans les maisons, comme on l'a lu il y a quelques instants. Voilà, on se moque d'eux et puis après on leur interdit de parler au nom de Jésus ou du nom de Jésus. Défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Ça nous rappelle certaines circonstances d'aujourd'hui. Et peu après, encore des menaces. Ne vous avons-nous pas défendu d'enseigner en ce nom-là? C'est étonnant quand même, parce que c'est une bonne nouvelle, mais il est défendu de la partager. Donc c'est une bonne nouvelle qui dérange, qui met mal à l'aise, qui perturbe, qui dévoile des choses qu'on voudrait laisser cachées, qui contrarie des plans, des projets. Voilà la situation, la vocation particulière du chrétien. Il est porteur d'une bonne nouvelle qui dérange. Et les apôtres sont battus de verges avant d'être relâché. Je crois que si ça nous arrivait aujourd'hui, on dirait, Seigneur, il y a une erreur. Certains diront, oui, mais c'était avant la Pentecôte. Non, c'était après la Pentecôte. Voilà, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je l'ai appelé « Arrêtons de rêver, soyons prêts à souffrir ». Voilà. Je suis étonné d'entendre le mot « rêver », le mot « rêve » apparaître de ci, de là, dans le langage chrétien. Voilà. Pourtant, nous savons que les espoirs sans fondement, les attentes trop grandes sont forcément déçues et génèrent de la colère, hein, quelquefois de la dépression. Les addictions, dont on parle de plus en plus, sont généralement nourries par des attentes trop grandes qui ne sont pas satisfaites. Dans la seconde partie de sa vie, je vais citer Victor Hugo. Dans la seconde moitié de sa vie, Victor Hugo est progressivement passé du conservatisme au progressisme, on pourrait dire de la référence à Dieu à la référence à l'homme, jusqu'au socialisme. J'ai relu cette semaine un très beau poème qu'il a écrit dans la deuxième partie de sa vie, un poème qui s'appelle « Lux », la lumière. Je lis la première et la dernière strophe de ce poème. C'est du Victor Hugo, c'est très beau, hein, mais il y a un message derrière. Écoutons ce message. Temps futur, vision sublime, les peuples sont hors de l'abîme, le désert morne est traversé, après les sables, la pelouse. Et la terre est comme une épouse, et l'homme est comme un fiancé. Au fond des cieux, un point scintille. Regardez, il grandit, il brille. Il approche, énorme et vermeil. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. Il parle à la République. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter ce poème longuement, n'est-ce pas ? Mais est-ce que Victor Hugo imagine, peu après la guerre de 1870, la guerre de 1914, toutes les deux épouvantablement meurtrières? Est-ce qu'il imagine le goulag avec ses 20 millions de déportés? Est-ce qu'il imagine la Seconde Guerre mondiale? Et je pense au pape Paul VI qui, en 1963, à la tribune des Nations Unies, dit « Plus jamais la guerre ». Est-ce que Jésus a dit quelque chose comme cela? Pas du tout. Voilà. Laissons les hommes forger des rêves si cela leur fait du bien. Mais laissons les rêves à ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. L'Évangile n'est pas un rêve pour nous aider à vivre. Voilà. Beaucoup d'incroyants pourtant pensent cela. Et même certains croyants peut-être le pensent. Et pourquoi j'ai mentionné l'espérance ? Parce que l'espérance est une ancre qui nous permet de supporter la souffrance. C'est-à-dire quand les circonstances contredisent ce que la foi attend, tout se passe autrement que ce qu'on a demandé, l'espérance est une ancre de l'âme. Comme il est dit de Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté la croix. Et souffert et porter l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée. Aujourd'hui, l'espérance est souvent en panne. Et donc la foi est nécessaire, l'espérance tout autant, frères et sœurs. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit est donné aux disciples ? Pour qu'ils soient des témoins fidèles. Par leur manière de vivre et par leur témoignage, quel que soit le prix à payer. On dira comment c'est possible ? C'est le Saint-Esprit qui le rend possible. Le mot témoin, vous le savez, en grec se dit martyrios. Et le chrétien ne cherche pas le martyr, mais le chrétien ne l'exclut pas. Et ça peut être demain matin ou la semaine suivante. Le chrétien n'est pas joyeux parce que tout se passe bien. Ce n'est pas des paroles faciles que je dis là. Hein. Le chrétien n'est pas joyeux parce que tout se passe bien. Le chrétien est joyeux quand il est fidèle, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit témoigne dans son cœur de l'approbation de Dieu dans le ciel. C'est une source de joie, y compris dans les moments sombres et dans les moments difficiles. Voilà. Seigneur, fais que tout aille bien, et la prière des païens. Seigneur, fais que je sois fidèle, et la prière des chrétiens. Ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Quelques dernières remarques pour conclure ce message. Et nous, où en sommes-nous? Si nous sommes devenus chrétiens pour moins souffrir, il y a un problème. Je vais citer un auteur que j'ai déjà mentionné peut-être ici une fois, Rod Dreher, qui a écrit un livre nourri par le témoignage de chrétiens qui ont vécu sous le régime totalitaire de l'ancienne URSS. Il dit « L'avenir qui se prépare conduira probablement les chrétiens à expérimenter ce que signifie souffrir pour la foi. » Il cite un pasteur qui a vécu en République tchèque. Ce pasteur dit « S'il n'y a pas la volonté de souffrir, même de mourir pour le Christ, tout n'est qu'hypocrisie. Tout n'est que recherche de réconfort. Quand je rencontre des frères dans la foi, et particulièrement des jeunes, dit ce pasteur, je leur demande de me citer trois valeurs chrétiennes pour lesquelles ils sont prêts à mourir. C'est là que vous pouvez tracer une ligne entre ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas. » Dans ce même livre, Rod Dreher dit « Ne craignez pas de paraître bizarre aux yeux de la société. Le genre de chrétien que nous serons à l'heure de l'épreuve dépend du genre de chrétien que nous sommes aujourd'hui. » Ça veut dire c'est tout de suite. Le refus de souffrir, le désir d'être approuvé par tous, conduit à être lâche, conduit à trahir. Comment réagirons-nous quand on nous demandera d'acquiescer à des principes contraires à ceux de la foi? Comment nos enfants, nos petits-enfants vont-ils se comporter dans la cour de l'école? Où sont leurs modèles? Toi donc, mon enfant, dit Paul à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et je voudrais conclure avec cette citation de Félix Neff, l'apôtre des Hautes-Alpes. Voilà, que ceux qui visitent les Hautes-Alpes connaissent, bien sûr, hein, 19e siècle. C'est une très belle citation. Il dit « Tout est provisoire en ce monde, l'Église comme le reste. Et pour une nuit que nous y passons, il n'est pas nécessaire d'y bâtir une forteresse. » Une légère tente, un chariot couvert, tels les peuples nomades, sont plus que suffisants. Demain, s'il plaît au Seigneur, nous serons dans la cité de Dieu. Est-ce que c'est triste? Pas du tout. Je voudrais prier. Seigneur Dieu, puissant Père, merci de nous tendre la main, communautairement et individuellement, à chacun, là où nous en sommes, et non seulement de nous guider, mais de nous instruire, non seulement de nous instruire, mais de nous guider. Merci d'avoir rappelé cette parabole du cep et des sarments, de la vie de Jésus en nous. Ça paraît impossible, mais tu l'as rendu possible, Seigneur, en nous attachant à toi, en nous rachetant, en nous sanctifiant. Et c'est pourquoi nous nous consacrons à toi chaque jour et puis chaque dimanche. Et c'est pourquoi nous écoutons ta parole, Seigneur.
parce que la force vient de toi, la capacité vient de toi, Seigneur. Et nous confessons ce matin que nulle circonstance n'échappe à ton regard et nulle épreuve n'est trop grande pour que un secours qui lui corresponde ne nous soit communiqué. Et nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir appelés à la suite de tous ceux qui nous ont précédés et avant tous ceux que tu appelleras encore, et de faire de ce jour un jour de grâce et un jour de fidélité. Secours-nous, Seigneur. Rappelle-nous combien tu nous aimes et combien nous pouvons t'aimer. Dieu vivant, nous nous confions en toi au nom de Jésus. Amen.